l'heure de retrouver mon invité, notre invité sur Fréquence Mistral. Il s'agit de Amanda Castello, écrivain, écrivaine, auteur, conférencière, formatrice. Beaucoup de cordes à votre arc, Amanda Castello. Bienvenue à Fréquence Mistral.
Merci beaucoup, merci, je suis ravie d'être chez vous. Merci.
Alors, vous êtes ici, on va le rappeler rapidement avant de mieux faire connaissance avec vous, puisque ce soir, il y a un rendez-vous important au Ciné-Étoile à Digne-les-Bains avec la projection d'un film, et vous serez présente pour animer le débat après ce film qui est sur le deuil, la fin de vie, le film « C'est la vie ». Avec l'acteur Jacques Dutronc et Sandrine Bonnaire dans ce très beau film. Et donc c'est à 17h45 au Ciné-Étoile, avec ensuite un débat. Vous allez dédicacer votre livre, on va en parler, de ce livre qui s'appelle « Calmer sa peine ». Et puis donc la soirée se terminera avec un partage autour d'un verre. Voilà, le pot de l'amitié, le verre de l'amitié. Vous êtes juriste de formation, vous êtes reconnue dans le monde de la littérature en France et en Italie. Aujourd'hui, si vous voulez parler du deuil, puisque c'est quelque chose qui vous tient à cœur, vous faites des formations de soins palliatifs. Racontez-nous un peu, Amanda Castello.
Mais écoutez, d'abord merci, puis surtout merci à Jal Malve, puisque je suis ici invitée par Jal Malve,
bien sûr,
qui fête aujourd'hui ses 30 ans d'exercice, c'est-à-dire c'est un anniversaire important, puisque quand même 30 ans d'activité, de soutien aux malades en fin de vie, aux familles, aussi bien donc les familles que aussi les soignants, parce que parfois ce sont souvent aussi les soignants ont besoin d'être aidés dans l'élaboration de leur accompagnement. Et donc pour moi c'est un grand plaisir et un grand honneur d'être ici pour participer donc de cette célébration, et je suis très liée à Jal Malve depuis de très très nombreuses années. Et voilà, donc j'ai eu l'occasion de connaître un des bénévoles importants et qui est en même temps une des personnes importantes du comité d'organisation et du CA de Jal Malve, qui est donc Pierre, qui est à mes côtés. Et on s'est rencontrés à Rennes à l'occasion donc du grand congrès de la Fédération Jal Malve qui s'était tenu cette année à Rennes, où j'avais été invitée pour justement parler du deuil dans la conférence d'inauguration. Voilà, donc ça c'est la raison pour laquelle je suis venue jusqu'ici en prenant le petit train hier au milieu des montagnes, qui est vraiment quelque chose d'absolument magnifique. J'ai découvert cet arrière-pays qui est splendide.
Donc vous découvrez Digne et sa région.
Oui,
voilà, d'accord.
Oui, sous un beau soleil.
Alors avant de parler de votre livre, je vois que vous avez suivi beaucoup de formations. Je voudrais avoir quelques éclaircissements sur l'EFT par exemple. Et puis il y a le counseling et team building. Enfin bon, c'est des mots.
Voilà, bon, écoutez, je crois que quand on est dans cette activité, j'ai une première activité, une première formation qui est donc le droit. Et j'ai donc une formation en droit international public et en sciences politiques. Et puis de là, ce qui m'a intéressé, c'était les droits humains. Et donc, j'ai vécu pendant très longtemps en Amérique latine. Et puis, je me suis donc intéressée à tout ce qui était les violations des droits humains en Amérique latine, à une époque où l'Amérique latine était sous le joug de dictatures militaires et civiles. Et donc, disons que depuis très très longtemps, depuis des décennies, je suis donc très engagée dans tout ce qui est la souffrance de l'être humain. Et bien sûr, ça veut dire pas seulement, bien sûr, là c'était la lutte pour essayer de sauver des personnes à l'époque, mais bien sûr, là, je me suis trouvée confrontée aussi à ce que voulait dire le deuil dans des situations traumatisantes, comme pouvait être, je pense par exemple aux mères de la grand-mère de la place de Mai en Argentine, qui cherchait les desaparecidos, donc les personnes qui avaient été enlevées dans leur maison, dans leur foyer, par des escadrons de la mort, qu'on appelait de cette façon, qui étaient donc des personnes non identifiées, mais qui étaient bien sûr des gens des services secrets ou de police parallèles, et qu'on n'a jamais retrouvés. Donc ces mères cherchaient leurs enfants et leurs petits-enfants. Donc c'est pour ça qu'il y a eu les mères de la place de Mai et les grands-mères de la place de Mai, qui continuent encore aujourd'hui à chercher les traces de ces enfants ou de leurs enfants à eux qui avaient disparu. Voilà. Donc, puis j'ai travaillé avec les maires du Guatemala, du Salvador, donc dans toutes ces régions où il y a eu ces oppressions, ces violences. Et bien sûr, là, le deuil est un deuil d'un autre type. Ce n'est pas simplement le deuil que l'on doit faire après la mort d'un être cher qui meurt ou de mort naturelle, à cause de l'âge, du grand âge, ou bien à cause d'une maladie, ou à cause d'un accident, mais dans des conditions beaucoup plus dramatiques. Mais, si vous voulez, le processus du deuil, il reste semblable au deuil traumatique que l'on peut vivre quand vous avez quelqu'un, par exemple, qui meurt dans un accident d'avion, ou un accident de bateau, ou bien une avalanche, c'est-à-dire un moment où un accident cardiaque, c'est-à-dire une mort subite que l'on ne s'explique pas, et donc... disons que toute cette formation et tout ce vécu que j'ai eu m'aident aujourd'hui à comprendre toutes les formes de souffrance, quelles qu'elles soient, quelle qu'en soit l'origine ou quelle qu'en soit la manifestation. Donc, si vous voulez, petit à petit, bien, ma vie s'est orientée vers ce qui est donc le quotidien un peu plus habituel de tout le monde, sans oublier qu'il y a aussi des deuils traumatiques, comme par exemple, pensons aux attentats, pensons à ce genre de situation qu'autrefois on connaissait pas ou on connaissait peu, et qui maintenant, quand vous pensez au Bataclan et que vous pensez aux familles qui ont dû élaborer un deuil après une situation de ce genre. Donc c'est vrai qu'on n'est pas à l'abri de deuils que l'on a beaucoup de mal à élaborer, parce que c'est extrêmement difficile. Donc... pour répondre à votre première question, c'est vrai que donc j'ai cherché chaque fois plus de nouvelles approches, de nouvelles techniques. En ayant vécu en Amérique latine, je me suis beaucoup intéressée, j'ai travaillé avec des chamans d'Amérique latine, donc ça c'était aussi un volet un petit peu particulier. Et puis après, l'EFT, c'est une technique qui s'appelle, EFT ça veut dire Emotional Freedom Techniques, ce sont donc des techniques d'émotion naturelle, donc émotionnelle, et qui sont des techniques, c'est si vous voulez une espèce d'acupuncture avec les doigts, donc il n'y a pas d'aiguille, et on travaille sur les émotions, les manifestations du corps. Et ça, c'est des choses qui sont vraiment, c'est une technique très simple, très facile, qui peut être utilisée par tout le monde quand on l'apprend. Et bien sûr, quand il y a des problèmes plus complexes, il vaut mieux se faire aider par un thérapeute. Donc il y a beaucoup de ce genre de techniques en plus que j'ai essayé de prendre, comme l'hypnose régressive spirituelle, enfin toutes ces approches qui peuvent être complémentaires et qui peuvent aider après dans l'élaboration du deuil, voilà, pour essayer d'aider aussi bien les personnes qui sont en deuil que les soignants ou que les bénévoles eux-mêmes qui doivent aussi accompagner quelqu'un. Et puis à un moment, cette personne, bien sûr, meurt et il faut élaborer la perte. Parce que nous sommes des êtres d'attachement, comme disait Boris Cyrulnik. Et donc, ce qui est difficile, c'est la perte de cet attachement. Comment faire pour résoudre? Comment faire pour se reconstruire? Comment faire pour ensuite arriver à reprendre le fil de sa vie et à redonner un sens à sa vie? Parce qu'en fin de compte, je pense que c'est ça la base de tout, c'est qu'on ne peut pas vivre sans donner un sens à sa vie. Et au moment de la mort, de la perte d'un être aimé, eh bien, on perd tout. Et on perd même le sens et on ne comprend plus. On ne sait plus où on est, on ne sait plus ce qu'on doit faire et qu'est-ce qu'on peut faire. Et c'est là où il est important aussi d'avoir des bénévoles, des gens qui sont formés au deuil et qui peuvent aider à retrouver un sens. Ça prend du temps, ça demande du temps, ça demande de l'énergie. Et ça demande d'être accompagné.
Et quelquefois, toute une vie pour faire un deuil. Et quelquefois, est-ce qu'un deuil ne se fait pas?
C'est une grande question, parce que vous voyez, moi je me bats depuis des années pour dire il faut faire attention, il ne faut pas être manichéiste dans la propre vision, il ne faut pas dire voilà, alors c'est ou un an, ou c'est là, ou alors ça veut dire que ça ne va plus, ça veut dire que c'est pathologique. Non, chaque être est différent, comme a dit le poète, chaque être est une île, donc il faut être très prudent surtout, et il faut s'approcher avec beaucoup de délicatesse et beaucoup de respect de l'autre, parce que Nous sommes un espèce de patrimoine de tout ce que nous sommes, de tout ce que nous avons aussi hérité, sans même d'ailleurs nous poser de questions, c'est-à-dire notre éducation, notre culture, notre milieu social, notre système de valeurs, nos expériences personnelles, notre foi ou notre non-foi, notre parcours qui est un parcours toujours travaillé, difficile, qui est un parcours, une course à obstacles, donc où chacun fait ce qu'il peut. Donc c'est pour ça qu'il faut affronter le deuil avec beaucoup d'humilité et se rendre compte que chacun fait ce qu'il peut, comme il peut, avec les instruments qu'il a, Le mieux, bien sûr, c'est que plus on a d'instruments et plus on est soutenu et aidé par des personnes compétentes, et mieux ça se passera. Mais dire que c'est un an un point barre, c'est faux. Ça peut être pour certaines personnes un an, ça peut être même parfois un peu moins, ça peut être aussi un peu plus, ça peut être même beaucoup plus. Ce qu'il faut, c'est avoir toujours un œil attentif. Disons que l'accompagnant, c'est le vigile, disons. C'est la personne qui est à côté, qui n'est jamais très loin, qui observe et qui se rend compte de l'évolution et qui ne bloque pas les émotions. Parce que nous sommes aussi... nous avons besoin de nos émotions. Nos émotions sont un langage. Il faut comprendre ce langage. Et nous parlons tous des langues différentes.
Et oui.
C'est ça la difficulté. De la même façon qu'on comprend que quelqu'un qui vient d'un pays différent parle une autre langue, et parfois on ne comprend pas qu'une personne puisse avoir des émotions différentes qu'on ne comprend pas.
Et oui, et puis le degré de souffrance et ne peut pas être comparable avec la souffrance de quelqu'un d'autre, que ce soit la raison aussi du deuil. Des fois, on peut dire « Oh, mais moi, c'est plus dur, j'ai perdu un enfant. Oui, mais moi, c'était mon chien. Moi, c'était... » On ne peut pas comparer, mais les souffrances sont là et il faut faire avec. Et puis, les conseils des uns ne sont pas forcément valables pour le deuil de l'autre, enfin... C'est important de connaître différentes techniques et savoir si la personne a envie aussi de faire son deuil, parce que on peut aussi être dans le déni.
Il faut respecter les temps nécessaires de la personne, parce que c'est un peu comme si vous voulez une ligne de température, ça monte, ça descend, ça remonte très haut, puis après ça redescend, ça s'écroule. Et bien sûr, ceux qui sont à côté ne comprennent pas. Enfin, elle allait bien. Comment se fait-il qu'elle se soit écroulée maintenant? C'est les fameuses phases dont on parle, dont tout le monde connaît les phases, et on pense souvent que c'est une espèce de progression mécaniciste. Et c'est pas ça comme ça, ça se passe pas comme ça. Vous avez mentionné le déni, effectivement, la première réaction, c'est le déni, c'est pas vrai, c'est pas possible, j'y crois pas. Pas à moi, pas à lui, pas à elle, c'est pas acceptable, c'est le sens de l'injustice.
Oui.
Donc c'est un refus. Et ce refus, c'est une protection. En fin de compte, on essaye de se protéger en disant c'est pas vrai, ça veut dire qu'on essaye de se... d'avoir une espèce de bouclier autour de nous pour dire « Non, ça ne va pas me toucher à moi. Voilà. » Bon, ça, c'est une réaction primitive, en fin de compte, de l'enfant. Après, il y a la réaction de la colère. La colère qui se manifeste en différentes façons. Ça peut être la colère contre la personne qui fumait trop et puis qui s'est pris un cancer. Et voilà, et puis alors, il est mort de ça, je lui avais dit, etc. Bon, ça peut être... la colère contre dans l'accident de voiture ou l'accident parce que voilà, enfin toutes les formes. Ça peut être aussi la colère contre je ne sais pas, contre le mari qui a prêté la voiture à son gamin et il n'était pas en mesure de, et c'est de sa faute.
Oui.
Ça peut être aussi la colère contre les soignants qui n'ont pas été capables de sauver la personne aimée. Ça peut être la colère contre soi-même parce que j'aurais dû, je n'ai pas su, je ne me suis pas rendu compte, par exemple dans les cas d'un suicide. J'aurais dû me rendre compte et je n'ai pas vu, je n'ai pas compris, c'est de ma faute. Donc ça peut aussi être la colère contre Dieu.
Et oui.
Dieu est injuste, Dieu me l'a pris, je n'y crois plus et il m'a abandonné. Donc il y a toutes ces manifestations qui sont très difficiles à gérer pour l'entourage. Parce que la colère, c'est insupportable. On ne sait pas quoi faire, on est paralysé par la colère. La tristesse, on peut encore prendre, embrasser... cajoler, etc. Mais la colère, c'est dévastant, c'est terrible, la colère.
Mais en même temps, c'est un temps nécessaire.
Oui, oui, c'est une valve de sécurité. Il faut la laisser. C'est comme si vous avez une cocotte minute, si vous bouchez le... à un moment ou à un autre, votre cocotte, elle va exploser et ça va être la catastrophe. Donc, il faut permettre que les émotions sortent. Mmh. Puis alors, après cette colère, il y a la phase de la tristesse. Cette espèce de tristesse qui peut après s'installer, et qui pourrait porter vers la dépression. Alors, la doctoresse Elisabeth Kubler-Ross disait qu'il y a deux types de dépression. Et ça, c'est important de le comprendre. Elle disait qu'il y a la dépression sur le passé, c'est-à-dire tout ce qu'on aurait voulu faire et qu'on n'a pas fait, et tout ce qu'on regrette, c'est tous les regrets. On voulait aller, on voulait se marier, puis on ne s'est pas marié, on voulait remettre ça plus tard. Voilà. Ça, c'est donc la dépression du passé. C'est la culpabilité par rapport à ce qu'on n'a pas fait, qu'on a renvoyé à plus tard, la procrastination fameuse. Et puis après, il y a la dépression sur le futur. C'est tout ce qu'on ne pourra pas faire. C'est tous les projets qui sont morts. On ne pourra pas vivre notre retraite, on ne pourra pas s'acheter de la petite maison au bord de la mer, on ne pourra pas aller, je ne sais pas où, moi, aux Maldives ou ailleurs. On ne pourra pas voir la naissance de notre petite fille, ou on ne pourra pas voir le diplôme de notre enfant, etc., etc. C'est tout ce qui était dans les projets qui s'écroule à ce moment-là.
Donc finalement, ce n'est pas seulement le deuil de la personne disparue, c'est aussi le deuil de toutes ces choses qui ne se feront pas.
Absolument. C'est le deuil, pas seulement de la personne, c'est le deuil d'une vie, en fin de compte. Et la vie, elle appartient au passé, au présent et au futur. Parce que nous sommes les créateurs de notre vie. Et donc, c'est notre capacité de création qui s'écroule tout d'un coup, qui disparaît. Et puis, alors après, si tout va bien, disons progressivement, on arrive à l'acceptation. Donc à l'acceptation, c'est-à-dire, oui, c'est vrai, maintenant j'ai pris conscience, il ou elle ne reviendra pas, en tout cas pas dans cette vie. Maintenant, je dois comprendre que je dois tout faire sans lui ou sans elle. Alors vous avez dit tout à l'heure une chose importante, vous avez dit, il y a des gens qui disent, c'est plus grave mon deuil parce que voilà, c'est un enfant, c'est, voilà, ou c'est mon mari, ou c'est ma sœur. Ça, c'est une réaction très, très émotive, parce que, au fond, c'est un peu notre enfant intérieur. Vous savez, l'enfant, il a dit jouer autour de lui, on lui dit, mais prête-en-la à ton petit copain. Il dit, non, c'est à moi. C'est à moi.
Et, oui.
Et ça, c'est une protection, c'est un sens de protection. C'est le côté aussi animal. Si vous voulez, si un animal, parfois, vous lui dites, mais je ne comprends pas, on lui donne à manger tous les jours, et pourtant, il va cacher un os dans un trou. C'est atavique. C'est une espèce de souvenir qu'il pouvait un jour manquer. Donc, le chien va aller cacher son os ou je ne sais pas quoi, ou quelque chose, dans un trou parce que c'est atavique. Bien. L'enfant, il dit c'est à moi parce qu'il a peur de manquer. Eh bien, nous, c'est pareil. On a ce même genre. Donc, c'est à moi, c'est aussi ma douleur. Ma douleur est pire que la tienne. Vous savez, c'est parfois les personnes âgées qui se retrouvent sur un banc public et puis commencent à échanger sur leurs différentes douleurs.
Ouais.
Oh, j'ai des doigts. Oui, oh, mais moi aussi. Puis alors la mienne, si tu savais, cette espèce de surenchère.
Ouais.
Parce que c'est aussi un besoin de se mettre au centre de l'attention. Parce que si je suis au centre de l'attention, c'est-à-dire si je suis victime, eh bien on va peut-être s'occuper de moi, on va peut-être me prendre en considération. Donc c'est un peu ce besoin de se faire coucouner. Donc ce qu'il faut faire surtout, c'est ne jamais juger. C'est essayer de comprendre, d'être attentif. C'est l'écoute, mais la véritable écoute, pas avec les oreilles. C'est ce qu'on appelle l'écoute active en psychologie. C'est-à-dire, c'est une écoute avec le langage du corps. C'est l'écoute des non-dits, de tout ce qui n'est pas exprimé, que l'on n'ose pas, parce que souvent, les gens n'osent pas dire. Oui, oui, ça ira, voilà. Surtout les hommes.
Oui,
c'est plus difficile.
C'est terrible. Les hommes refusent complètement un constat d'une faiblesse, surtout pas avoir besoin de quelqu'un.
Oui, malheureusement, c'est le conditionnement.
Pour se faire aider.
Voilà, c'est un conditionnement de l'enfant mâle. Moi, je prends toujours cet exemple qui est très basique. Combien de fois on a vu dans un jardin public un gamin qui se fait mal, il tombe par terre, il pleure parce qu'il s'est gratté le genou, et puis son père lui dit « arrête de pleurer comme une fille ».
Oui.
Bon. Et le gamin se rend compte, inconsciemment il n'analyse pas, que ça c'est pas normal, qu'il doit contrôler.
Oui.
Et donc on va essayer de faire des Superman dans le futur, et malheureusement c'est que ce Superman, eh bien, il est fragile, il a les pieds d'argile, et il va à un moment ou à un autre, et alors il vous dit, non, non, mais ça ira, vous inquiétez pas, ça va passer, non, non. Et puis alors il se jette dans le travail, ou il se jette dans des mécanismes de compensation, l'alcool, la fumée, la voiture, la vitesse, le sexe. Ce sont tous des mécanismes de compensation pour, en fin de compte, oublier la propre souffrance, mais sans cette capacité de se regarder à l'intérieur et de dire, oui, c'est vrai, je ne vais pas bien, je suis mal. Oui, j'ai besoin d'aide. Et c'est très difficile, justement. Dans des groupes de deuil, il y a 1%, parfois un 0,5% d'hommes.
Ah oui.
Les femmes sont beaucoup plus spontanées. Elle a envie de comprendre. Vous savez, on dit que la curiosité est féminine. Mais bienvenue, cette curiosité. C'est ce qui fait avancer la science.
Ah oui.
Sans curiosité, il n'y a pas d'avancée. Et c'est vrai que les femmes sont naturellement curieuses. Elles veulent comprendre. Elles veulent comprendre pourquoi elles ne vont pas bien. Et elles veulent comprendre comment aller mieux, parce qu'elles ont aussi les responsabilités par rapport à la famille, par rapport à leur entourage. Donc, je veux pas dire, c'est pas une question de supériorité de la femme sur l'homme. Ce que j'essaye de faire comprendre, c'est simplement qu'il y a un conditionnement de l'éducation des petits garçons qui est très grave. Il faut expliquer que les émotions, elles font partie de la vie. Et que c'est normal qu'un homme pleure. Ça ne doit pas nous faire plus d'impression, parce que, mon Dieu, il a pleuré. Ben oui, il a pleuré, c'est un être humain. Et il faut redimensionner donc ce droit à l'expression des émotions, qui est ce qui fait la grandeur de notre être, notre capacité de nous relationner avec les autres. Donc sans en avoir peur, sans jamais avoir honte de laisser apparaître une faiblesse, c'est une faiblesse passagère. En fin de compte, ces moments de souffrance, elles ne durent pas, elles ne doivent pas durer. Si elles durent, alors là, ça devient un deuil long ou qui peut devenir un deuil pathologique. Et là, c'est pour ça que je disais qu'il faut que l'entourage soit comme des vigiles, c'est-à-dire observer et se rendre compte que là, il y a peut-être un danger, que là, il faut peut-être intervenir, qu'il faut peut-être aller chercher de l'aide ou auprès d'un professionnel ou bien d'une association de bénévoles comme Jalmalve, qui ont des personnes formées et qui peuvent comprendre et qui sont capables d'écouter, pas de vous dire qu'il faut prendre des médicaments pour dormir, parce que oui, on peut prendre des médicaments pour dormir, en fin de compte, c'est une forme d'anesthésie.
Oui.
Hein? Mais ça ne résout pas le problème. En fin de compte, on renvoie le problème. Mais chaque fois, après, vous savez, c'est un peu comme une cicatrice. Si elle n'a pas été nettoyée, la plaie, elle continuera à suppurer. Une cicatrice, elle existera toujours, parce que vous n'oublierez jamais la personne qui n'est plus là. On peut après retrouver des liens d'attachement. Mais la cicatrice, si elle a été bien nettoyée, ben vous la voyez, vous la regardez, vous pouvez la toucher, elle ne vous fait plus mal. Vous vous rappelez parfaitement, vous vous souvenez de ce qui s'est passé. Mais si la plaie n'a pas été nettoyée, la cicatrice, elle est toujours douloureuse. Et elle vous empêche également d'avoir de nouveaux liens, des liens d'attachement, d'avoir des nouveaux, de retrouver un sens à la vie.
Alors, il y a beaucoup de méthodes, heureusement, pour être aidé dans ces périodes de deuil. Il y a beaucoup de méthodes positives aussi. Positives, je ne sais pas, j'imagine que vous connaissez la PNL aussi.
Oui, oui.
Qui permet d'avoir accès à nouveau à ces ressources internes et extérieures. Mais pas tout le monde, voilà, chacun peut trouver sa méthode, oui. La méthode qui lui convient, puisque ça ne convient pas forcément.
Mais je crois que toutes les approches sont bienvenues si elles font du bien. Hein. Il y a la méditation, il y a le yoga, il y a la PNL, comme vous avez dit, il y a le Reiki, il y a des quantités de disciplines qui sont complémentaires, justement, oui. Je les appelle des disciplines complémentaires, qui sont extrêmement utiles. Et je pense que il faut que chacun trouve. Il y a des personnes qui ne sont pas du tout faites pour la méditation ou pour le yoga. Et puis, ça dépend aussi de l'âge, ça dépend de l'état physique. Ça dépend beaucoup de... Je vais prendre, par exemple, quelqu'un qui est une personne obèse. Vous n'allez pas lui faire faire... C'est difficile de faire faire certains gestes ou certaines techniques, certaines approches avec le corps. Donc, il faut pouvoir adapter. Il ne faut pas imposer. Il faut essayer de comprendre qu'est-ce qui fait du bien. Et puis, prendre soin de soi. Il faut accepter de prendre soin de soi, il faut accepter que ça prend du temps et qu'on a besoin de temps. Et puis qu'il y a des moments où on va passer de la colère, on va revenir après à la tristesse, puis de la tristesse, on va passer de nouveau au déni. Non, c'est pas vrai, j'arrive pas encore à y croire. Parce que, vous savez, c'est comme le langage du corps. Moi, je dis toujours, en fin de compte, ces processus-là sont comme un processus de digestion. Si vous mangez trop, ou si vous prenez, vous buvez trop, vous prenez une cuite, qu'est-ce qui se passe? Ben ça, au début, ça va passer très bien. Puis tout d'un coup, vous allez vous rendre compte que ce n'est pas possible et votre corps, il va rejeter. Et donc, le corps, il va rejeter l'alcool ou l'excès de nourriture parce que le corps, il sait ce qui va et ce qui ne va pas. Il connaît ses limites. Eh bien, si vous voulez, le processus aussi bien de la prise en compte d'une nouvelle comme celle-ci, que ce soit le diagnostic d'une maladie incurable, ou que ce soit la mort d'un être aimé, ça suit le même processus. Il y a un moment, ça se bloque. D'ailleurs, on dit dans le langage populaire, cette nouvelle, je l'ai là, j'arrive pas...
J'arrive pas à l'avaler.
Voilà, oui, j'arrive pas à l'avaler, je l'ai au milieu, de travers de la gorge, ou bien j'ai ce machin-là sur l'estomac. Et ça veut bien dire qu'on n'arrive pas à assimiler et qu'il y a des moments où on explose. Donc, c'est le moment du rejet. parce que c'est excessif, parce que c'est trop fort, parce que c'est trop violent. C'est pour ça que je compare ça à un processus de digestion. Donc c'est pareil. Par exemple, prenez le cas de la communication du diagnostic grave.
Ça doit être terrible.
En général, les médecins qui sont un peu trop radicaux, un peu trop brutaux dans leur approche, qui vous balancent ça sans prendre des formes, c'est pas acceptable. Là, vous avez un processus de déni. C'est pas vrai. Donc, ça se bloque. C'est pour ça que d'ailleurs, il faut toujours être à deux. Parce que quand vous sortez du rendez-vous chez le toubib, et puis, y en a un qui a compris une chose et l'autre qui a compris autre chose. Et alors, par exemple, la personne dira, tu vois, il m'a dit que je pouvais continuer à boire du vin. Et l'autre dira, non, il a dit que tu pouvais boire un verre de vin. Mais pas du vin. Si vous voulez, bon, c'est un exemple bateau que je donne pour faire comprendre. C'est-à-dire qu'il y a une subjectivisation dans l'interprétation. Donc, moi, je vais comprendre ce que je veux comprendre. Mais je ne vais pas comprendre ce que peut-être m'a dit l'autre. Donc, il faut que le processus de la vérité, c'est pareil. Il suit un processus de gestion. Moi, je dis toujours au niveau de la communication, parce que là, on est encore dans la communication. Il faut savoir, par exemple, pour ce qui est la vérité, il faut savoir qui doit dire la vérité. Comment dire la vérité? À quel dosage dire la vérité? Et comment accompagner la vérité? Parce que c'est le processus de la digestion. Jusqu'au moment où vous allez donc accepter, on arrive à l'acceptation, et assimiler. Et en fonction de ça, vous pourrez commencer à réagir avec votre propre mal. Quand il s'agit d'une maladie grave dont on vient de vous communiquer un diagnostic très très lourd à gérer.
Parce qu'il y a toujours cette ambivalence quand on dit est-ce qu'on doit dire à la personne qu'elle est condamnée ou est-ce qu'on lui dit ça va aller, on lui cache la gravité de sa maladie parce que sinon, fragile comme elle est, elle pourrait partir encore plus vite avec le choc. C'est toujours aussi...
Là, vous voyez, cette ambivalence que vous mentionnez là, elle dépend de notre propre peur. Mmh. On retourne à l'histoire de l'enfant qui dit « c'est à moi, c'est à moi », donc à la possession. Hein? Donc, on est pratiquement, on se considère un peu comme les propriétaires de la personne aimée, et on dit « surtout ne lui dites rien parce qu'elle ne sait rien, et ça risque de s'aggraver ». Et souvent, vous avez la personne malade qui dit « ne dites rien à mes proches parce que je ne veux pas les affoler ». Donc, chacun sait, mais il y a cette espèce de complot du silence. Mmh. Et le complot du silence, il fait du mal à tout le monde. Donc, il faut être aidé, justement, et ça, souvent, c'est les bénévoles qui sont capables d'aider la famille à faire comprendre que ce sont les moments magiques que l'on perd dans ces cas-là. Parce que quand on peut dire la vérité, il y a tellement de choses qu'on aurait envie de dire et qu'on n'a encore jamais osé dire, peut-être. Parfois, il y a des pardons que l'on voudrait donner, que l'on voudrait obtenir à l'intérieur d'un rapport humain avec l'autre. Et qu'on ne peut pas dire s'il y a un manque de communication, s'il y a un manque de vérité. Donc, c'est important de pouvoir comprendre que ce n'est pas parce qu'on dit la vérité à quelqu'un que ça va la faire précipiter, pas du tout. Au contraire, ça va peut-être lui redonner un sens à sa vie, au lieu d'être dans cette angoisse de ne pas savoir combien de temps il lui reste. Personne ne sait. Comme vous avez dit tout à l'heure, lui dire qu'elle est condamnée. Mais qui dit qu'elle est condamnée? Il y a parfois des rémissions dont on ne comprend pas le mécanisme. Et pourtant, elles se sont passées. Donc, je crois qu'il faut faire très attention aussi à la façon dont les personnes ont tendance à catégoriser les rapports et les relations humaines.
Amanda Castello, on va revenir donc sur ce livre que vous venez de publier. Calmer sa peine, justement, c'est un livre recette, si on peut dire ça comme ça, où chacun pourra trouver peut-être vers quoi aller, vers quel soulagement, par exemple, je vois il y a un passage sur le protocole de la nature. Effectivement, marcher dans la nature, ça permet de retrouver enfin ses racines ou ça.
Oui. Ce livre, Calmer sa peine, c'est-à-dire justement, ça dit bien calmer. Ça ne veut pas dire un miracle, ça ne veut pas dire une baguette magique qui va résoudre le problème. Calmer sa peine, ça veut dire essayer de voilà, d'avoir moins mal petit à petit, d'arriver à comprendre. Et ce que je voulais, c'était pas de faire un livre en plus sur le deuil ou sur la mort, puisqu'il y en a de très nombreux et de très intéressants, qui sont d'ailleurs recommandés dans la bibliographie que j'ai mis à la fin. Mais ce que je voulais, c'était un livre pratique, c'est-à-dire un livre qui puisse s'adapter à toute personne. Ce n'était pas nécessaire d'avoir un diplôme universitaire et d'avoir des connaissances et d'être déjà dans cette problématique. Parce qu'en fin de compte, quand on vit un deuil, quand on vit une perte, ça prend tout le monde. Ça touche tout le monde. Qu'on soit riche, pauvre, cultivé, analphabète, homme, femme, jaune, noir, blanc, ça touche tout le monde. À un moment ou un autre, nous sommes confrontés avec la perte d'un être aimé. Quelle que soit l'histoire, quelles que soient les conditions. Et donc je voulais que ce livre puisse être un instrument qui puisse servir à toutes ces personnes. C'est la raison pour laquelle c'est un livre qui est assez facile à lire, à approcher, avec des protocoles. C'est un mot savant pour dire exercice. Mais ces protocoles sont progressifs, donc c'est-à-dire qu'ils aident la personne à une prise de conscience progressive de ce qui lui est arrivé, de ce qui lui arrive, et qui va la guider avec peut-être des exercices, donc ces fameux protocoles, il y en a 30, qui vont être aussi bien dans la nature, des choses simples, ou bien des choses un petit peu plus complexes pour réfléchir sur une espèce d'introspection, sur qu'est-ce que l'on ressent, qu'est-ce qu'on a ressenti, qu'est-ce qu'on éprouve, qu'est-ce qu'on peut faire. Donc ces protocoles, à la fin, et bien sûr, à chaque page, il y a des notes qui permettent, pour les gens qui veulent en savoir davantage, d'approfondir les questions. Je ne voulais pas mettre toutes les explications scientifiques, théoriques à l'intérieur pour éviter que ça devienne trop confus et qu'il y ait des gens qui s'y perdent dans tout ça. Parce que, bon, il faut comprendre qu'on n'est pas tous avec les mêmes niveaux de connaissances et on n'a pas tous les mêmes besoins. Mais ça, ce sont des besoins qui sont primaires, disons, qui sont essentiels. Et donc, petit à petit, il y a, bien sûr, il y a des chapitres particuliers qui traitent de certaines questions et il y a donc ces protocoles. De ce que je vois aujourd'hui, eh bien, il y a des résultats vraiment importants parce que les gens, ça peut être un livre qui peut être très bien, parfaitement utilisé par des adolescents. Je ne dis pas des enfants de 10 ans, bien sûr, mais je parle de grands adolescents et bien sûr par des adultes. Je prends l'exemple, par exemple, d'un petit garçon qui avait perdu sa chienne et c'était un grand drame. Et sa mère avait acheté le livre et il a commencé à feuilleter et il a trouvé un protocole qui lui plaisait. Et ils ont donc le protocole, c'est aller planter un arbre. Il est allé dans le jardin donc de la famille. Ils ont été achetés dans une jardinerie un arbre, un petit arbre. Il a planté son arbre et puis donc il allait maintenant chaque week-end, il va près de son arbre, il prend son arbre dans ses bras et puis il a donné le nom de sa chienne à cet arbre. Et ça lui permet de faire un transfert de ses émotions, de la perte de sa chienne sur cet arbre. Bon, ça c'est un exemple donc, qui a été utilisé par cet enfant. Il y a d'ailleurs ce soir, à l'occasion de la conférence, je donnerai quelques exemples. Il y a par exemple la pelote de laine que l'on peut faire.
Ah oui, j'ai lu ce qui permet de décharger son traumatisme, voilà. De dire avec des mots et de déposer, en fait,
son chagrin. Le mot que vous avez choisi, c'est le verbe, c'est ça. C'est déposer sa propre souffrance, son propre chagrin, et avec les autres présents qui ne doivent pas intervenir. Parce que souvent, le problème, c'est qu'on intervient. Mais non, mais tu verras, ça ira mieux. Et on bloque le moment où la personne était prête à déposer, à parler de ce qu'elle ressent. Donc c'est un exercice que je montrerai d'ailleurs ce soir à l'occasion de cette conférence. Parce que l'on peut le faire en famille, on le peut faire dans une école, on le peut faire avec un groupe de soignants, on peut le faire avec un groupe de bénévoles, parce qu'on a tous quelque chose à déposer. Et souvent, on n'arrive pas à le faire parce que personne ne nous écoute, ou parce qu'on n'ose pas, parce qu'on est conditionné. Et puis là, je vois, nous, on a travaillé aussi avec des écoles, et parfois, les enfants avec leurs enseignants. Puis alors, à la fin, il y avait un gamin qui disait « Oh, mais dis donc, mais alors, la prof, elle est humaine !» parce que bien sûr le professeur ou la professeure avait déposé une souffrance et à ce moment-là les enfants, les jeunes avaient regardé en disant mais mince alors c'est pas seulement une autorité qui nous dit ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire et ce qu'il nous enseigne, mais c'est aussi un être humain. Et ça donc renforce les liens entre les personnes. Donc, ce livre, il a cette finalité. Et puis, c'est un livre laïque avec un L majuscule. C'est-à-dire, c'est un livre où chacun peut ensuite trouver quelque chose qui lui appartient, peut émettre sa croyance ou sa non-croyance. Il n'y a rien qui est imposé. D'ailleurs, à la fin du livre, il y a plusieurs quantités de textes qui sont des textes aussi bien religieux des principales religions que nous connaissons, qu'il y a des textes laïques. Et donc, cela, vous voyez, c'est récemment, j'ai fait une interview avec un pasteur protestant de Suisse allemande, et il m'a dit qu'il avait utilisé un de mes textes pour un de ses enterrements, de ses cérémonies, et qu'il avait utilisé un de ces textes-là, parce qu'il avait trouvé que c'était vraiment un message important pour la famille. Donc voilà, je pense que c'est ça, c'est cette ouverture d'esprit qu'il faut avoir. Il faut avoir vraiment, ne pas se laisser conditionner par notre culture, notre éducation, nos croyances, et essayer de se rendre compte que la vie, elle offre tellement de choses tout autour de nous.
Calmer sa peine, Amanda Castello. Donc, vous l'avez écrit en collaboration avec un médecin ?
Non, c'est il y a non non. J'ai là la préface oui. a été faite par le docteur D'accord. Jean-Jacques Charbonnier, qui est un médecin réanimateur anesthésiste, et la postface a été faite par un autre médecin, la docteure Constance Hiver-Lhomme, qui est gériatre et spécialiste en soins palliatifs. Voilà, donc ils ont, si vous voulez, donné un aval, aussi bien par la préface que par la postface, à ce travail. Mais c'est le résultat de 20 ans de travail, de groupes de deuil avec des enfants, avec des adolescents, avec des adultes, d'accueil, d'assistance privée directe avec des personnes en souffrance. Mais c'est un livre qui a été publié, donc, qui est sorti récemment, cette année, par le Lotus et l'Éléphant, qui est la maison d'édition du groupe Hachette, et qui sera ce soir en vente par la librairie La Ruelle, mais qui est en vente dans toutes les principales librairies de France et de Navarre.
On va parler de ce livre, ça s'appelle Paddy et l'aventure de la vie. C'est un livre à destination des enfants.
Oui.
Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ?
Oui, c'est un livre illustré, donc qui est un livre pour les enfants qui vont de l'âge de 6 à 14 ans. Disons. Après, ils se considèrent trop grands pour lire des livres qui ont une illustration. Et quand j'entends illustration, j'entends des photos et des dessins. C'est, si vous voulez, le même principe que Calmer sa peine. C'est un livre où on accompagne, cette fois-ci non plus l'adulte, mais un enfant, dans une expérience de la vie. Pourquoi ça s'appelle Paddy d'abord ? Eh bien, la petite fille qui est donc la guide de cette histoire, elle s'appelle Paddy. Pourquoi ? Parce que c'est tout ce qui n'est pas dit, tout ce qu'on ne sait pas dire, tout ce qu'on n'ose pas dire. Donc voilà pourquoi elle s'appelle Paddy. Et cette petite fille, elle raconte donc l'aventure de la vie. Pourquoi ? Parce que les aventures, si vous avez fait un jour une aventure, vous avez fait un voyage extraordinaire, vous avez fait de la randonnée, de temps en temps, c'est magnifique, on voit des paysages magnifiques, on est content, puis à un moment on tombe, on se fait mal, puis on se relève, puis on poursuit. Parce que dans les aventures, il y a des moments vraiment extraordinaires de découverte, et puis il y a des moments difficiles et douloureux. C'est ça l'aventure, et c'est ça la vie. Donc il faut accompagner l'enfant dans cette aventure. Et donc les deux personnages principaux humains sont Paddy, cette petite fille, et un homme qui est un pompier. Pourquoi un pompier ? Parce que dans l'imaginaire collectif, le pompier, c'est un peu le sauveur du monde, c'est celui qui éteint l'incendie, mais qui va chercher le petit chat de la voisine qui est monté dans l'arbre et qui sait pas redescendre. C'est celui qui aide. C'est l'aidant par définition. Et c'est un peu pour moi, si vous voulez, la représentation de l'adulte idéal, donc du parent idéal, du père ou de la mère idéal, du grand-père ou de la grand-mère idéal, de l'enseignant idéal. C'est l'adulte idéal. C'est-à-dire celui qui est là, qui accompagne la petite fille dans ses découvertes, qui accueille ses souffrances, qui répond à ses questions, qui ne lui raconte pas des mensonges ou qui ne lui raconte pas des fausses vérités, comme on a souvent tendance à faire avec les enfants en disant « ils sont trop petits, ils comprendront plus tard ». Non, quand l'enfant pose une question, c'est maintenant qu'il veut une réponse. Il veut une réponse vraie. Parce que l'enfant sait très bien quand vous lui mentez. Comme la personne qui va mourir sait très bien quand vous lui mentez. Parce qu'elle sait qu'elle va mourir. vous pouvez lui dire, mais non, tu verras, à Noël, à Pâques, à la Trinité, etc. Et mais la personne sait très bien. C'est une espèce de connaissance intuitive qu'elle a, qui lui vient d'on ne sait où, mais qu'elle a. Eh bien, l'enfant, il a la conscience que vous lui dites la vérité ou pas. Et c'est là où il va établir le rapport de confiance avec vous ou pas. Donc, le pompier en question, eh bien, il dit la vérité, mais avec des mots simples qui sont à la portée de l'enfant. Et donc, ce livre, il est... pourquoi je dis que c'est un livre illustré ? Parce que vous savez très bien que dans les livres, en général, les livres pour enfants, c'est des dessins. Et on trouve des photographies seulement de la partie des livres éducatifs, scientifiques, pour leur expliquer la science, les étoiles, etc. Mais il manque cette association entre le monde imaginaire de l'enfant, qui est représenté par les dessins, et puis la réalité. Donc, je prends toujours cet exemple de l'ours balou du livre de la jungle. Et les enfants pensent que qu'un ours, ben, c'est comme l'ours balou. Eh bien, non, pas du tout. Donc... il faut comprendre que l'ours balou et un ours, un grizzly, ben, c'est pas tout à fait la même chose. Voilà. Bon. Donc, j'ai voulu à l'intérieur de ce livre qu'il y ait une histoire. Il y a des petits symboles qui renvoient après, à la fin du chapitre, à une partie qui est à toi de jouer. Donc, c'est interactif. Donc, l'enfant commence à exprimer ce qu'il ressent, etc. J'ai voulu aussi qu'il y ait des questions pour que l'enfant... c'est pas des quiz. C'est pas pour voir s'il sait ou s'il sait pas. Ça, je ne veux jamais juger un enfant. Mais c'est pour essayer de pousser l'enfant à oser dire ce qu'il pense et ce qu'il ressent. Parce qu'en général, aux enfants, on ne leur demande pas ce qu'ils pensent. On leur dit, voilà, ça c'est bien, ça c'est mal, tu dois faire comme ça, tu ne dois pas faire comme ça. Et c'est le conditionnement qui commence. Et on oublie de demander à l'enfant, mais qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que c'est pour toi? Qu'est-ce que tu aurais fait à la place d'eux? Et donc, à l'intérieur de ce livre, donc, dans toute cette partie à toi de jouer, c'est lent, c'est progressif, c'est didactique. Mais petit à petit, l'enfant, il prend confiance qu'il peut dire quelque chose, qu'il peut exprimer. Et il a non seulement conscience, mais il a confiance. Donc, il ose, petit à petit, être lui-même. Et c'est extraordinaire. Moi, j'ai eu d'après des rapports d'enfants qui avaient fait des dessins, ont répondu à des questions. Mais fabuleux. Mais c'est extraordinaire comment ils ont sorti ces choses comme là. Parce qu'on leur avait permis d'être eux-mêmes. Et donc, ça permet après à l'enfant, bien sûr, par la nature et par une expérience douloureuse avec son chien, d'accompagner le chien jusqu'à sa dernière demeure, comme on dit. C'est-à-dire que le chien, bien sûr, il y a une opération qui va se faire, mais ce n'est pas possible, on ne va pas le sauver. Et après, il y aura l'enterrement du chien et donc les émotions qui vont sortir. Et après... tout ce qui est la souffrance, etc. Et comment redonner un sens et comment recommencer à vivre. Donc, ce n'est pas un livre sur la mort, c'est un livre sur l'aventure de la vie. Et tout au long, et après, il y a un autre petit symbole qui sont les conseils de Paddy. Donc, en fonction de l'âge de l'enfant, il y a des questions que l'enfant pose et souvent les parents, les adultes ne savent pas comment répondre. On dit, bah, tiens, on a fait l'échographie à la grand-mère. C'est quoi l'échographie ? Ben, c'est pas facile pour un adulte d'expliquer ce que c'est qu'une échographie avec des mots simples. Bien, dans les conseils de Paddy, il y a, avec des mots simples, qu'est-ce que c'est qu'une échographie ? À quoi ça sert ? Qu'est-ce que c'est qu'une incinération ? Qu'est-ce que c'est que le vol des oiseaux ? Qu'est-ce que c'est qu'une aile ? Comment ça fonctionne ? Il y a des quantités d'informations qui sont utiles et que souvent on ne sait pas, voilà, et qui correspondent bien sûr à l'évolution de l'âge de l'enfant. Un enfant qui a 6 ans, bon, ben, l'échographie, il ne va pas se poser la question, mais si c'est un petit garçon un peu plus, ou une petite fille un peu plus grand, un peu plus évolué, il veut comprendre. Voilà, donc ça, c'est aussi des choses qu'on trouve à l'intérieur de ce livre. Donc c'est un livre qui existe en français, en anglais et en italien, voilà, en 3 langues. Et Calmer sa peine existe aussi en 3 langues. Il existe en français, en espagnol et en italien, dans des maisons d'édition différentes.
Quel beau travail. Bravo, madame. Amanda Castello. Donc, vous avez un site.
Oui.
J'ai vu ça. Hein, oui. C'est www.amandacastello.
Non, c'est amanda-castello.com.
Voilà.
Amanda-castello.com.
Là, c'est écrit .eu.
Ah, parce que oui, ça, après, j'ai dû changer. Voilà.
D'accord.
Voilà, là, il y a une petite erreur. Façon, c'est .com.
C'est .com, d'accord. Merci.
Et puis, vous pouvez me contacter par vous ou par Jalmalve, bien sûr, de Digne-les-Bains. Très important, puisqu'on continuera sans aucun doute notre collaboration avec Jeanne Malve, bien sûr.
En ce moment, donc, vous êtes. Est-ce que vous avez d'autres projets à venir dont vous avez envie de parler ?
J'ai toujours des projets.
Oui.
C'est ça le problème, toujours des projets. Ben oui, je travaille actuellement sur un journal de deuil. Parce que je me suis rendu compte qu'il y avait des gens qui avaient du mal à lire un livre. Mais un journal de deuil, ça peut être plus facile. C'est-à-dire un journal dans lequel il y a des informations, il y a les propres émotions et il y a la possibilité d'exprimer ces émotions. Donc ça, c'est un projet sur lequel je travaille. Et puis, il y a un deuxième livre sur lequel je travaille depuis l'histoire du Covid, qui est un livre qui reprend... Alors, je voudrais quand même expliquer. Au moment du Covid... Je me suis donc trouvée, comme tout le monde, à un moment, avec une sorte de confinement, bloquée. Et comme je ne pouvais pas recevoir de personnes, j'ai donc aidé les personnes par les moyens que nous avons, c'est-à-dire, heureusement, par le téléphone, par Zoom, par Skype, pour les personnes qui étaient en mesure de communiquer de cette façon, sinon de façon par téléphone. Et il y avait énormément de souffrance. Il y avait énormément de... surtout des personnes âgées, qui étaient complètement isolés et qui commençaient donc à régresser, puisqu'ils n'avaient plus de contact avec leurs proches. Et c'était une souffrance terrible pour ces personnes, bien sûr, et aussi pour leurs proches. Parce qu'il y a une espèce de sentiment d'impuissance. Vous voulez aider, vous ne pouvez pas, vous êtes empêché, vous êtes emprisonné. Vous, vous êtes emprisonné à l'extérieur, et les personnes que vous aimez sont emprisonnées à l'intérieur. Donc c'est une catastrophe. La situation qu'on a vécue, ça n'a jamais été vécu. Jamais. On n'a jamais connu ça dans l'histoire de l'humanité, d'avoir une espèce de deux formes d'emprisonnement différents. Et ça, ça a porté des situations très graves. D'une part, ça a porté à la mort des personnes âgées, et ça a porté aussi à la déconfiture, si je pourrais dire, avec un mot un peu populaire, de ces personnes qui ont perdu au niveau cognitif, qui ont régressé, qui ont eu du mal à revenir. Certaines ne sont jamais revenues, et d'autres, si. Et donc, je me suis dit, mais comment est-ce qu'on peut faire ? Alors, j'avais écrit des articles, etc., mais toujours avec l'idée que, bien sûr, c'est problématique, c'est que si j'écrivais un livre, un essai sur ce sujet, ben, ça serait lu seulement par les intéressés, les gens qui travaillent dans ce domaine. Mais je voulais donc faire ça plutôt sous une forme d'une histoire. Et j'ai commencé parce que je connaissais l'histoire de certaines personnes âgées. Et ces personnes âgées, je me disais, mais comme toujours, on ne sait rien de la vie de ces personnes. On a aujourd'hui une personne âgée, comme si c'était une espèce de catégorie qui identifie la personne. Qui est-elle ? Une personne âgée. Un homme âgé, une femme âgée. C'est faux. Derrière, il y a une histoire.
Bien sûr.
Il y a une vie derrière. C'est une personne qui a aimé, qui a été trahie ou qui a trahi, qui a fait des belles choses, qui a fait des choses horribles, qui a fait des actions héroïques ou qui a fait des choses tout à fait banales en faisant sa petite vie tranquille. Peu importe, on ne demande pas qu'il y ait des héros. Mais parmi toutes ces personnes âgées aujourd'hui, que certaines donc je connaissais, j'ai identifié certaines personnes... Et je connaissais leur propre histoire. Et je me suis dit, mais enfin, ces femmes, là j'ai parlé de femmes, ces femmes avaient vécu la Deuxième Guerre mondiale, elles s'étaient engagées, elles avaient 17 ans, puis elles s'étaient engagées, sans très bien comprendre, sans formation politique, sans obédience particulière, mais elles s'étaient engagées avec un idéal. Après, elles avaient vécu d'autres situations, l'après-guerre, la crise économique, etc. Puis elles s'étaient mariées, elles avaient des enfants, blablabla. Et je disais, aujourd'hui, ce sont des personnes qui sont dans une souffrance terrible. Donc, j'ai décidé de raconter la vie de ces femmes très jeunes, donc depuis l'âge de 17 ans. Donc, j'ai pris trois femmes dont je connaissais. Donc, une est morte après les suites du Covid, complètement en isolement total. Une autre qui était donc dans une situation très grave parce qu'elle était... celle dont j'ai parlé avec Pierre et son épouse pour leur raconter cette situation. Cette femme était aveugle, sourde et malade d'Alzheimer. Donc bien sûr, quand elle s'est retrouvée sans possibilité d'avoir un contact physique avec sa fille, ça a été le drame. Naturellement, le drame pour tout le monde. Donc voilà, il y avait différentes personnes. Et puis après, il y avait une femme qui avait été commandante FFI pendant la Deuxième Guerre mondiale. Elle existe toujours. C'est la seule qui est encore... Elle a 98 ans. Et chaque fois que je vais à Paris, je vais la rencontrer. Et elle est toujours commandante FFI à 98 ans. Et elle dit, quand j'arrive, elle me dit, Amanda, champagne. On va boire le champagne. Et on va boire le champagne. Mais elle, cette femme, elle a réussi. Mais ça a été très, très difficile. Donc, il y a certaines qui s'en sont sorties et d'autres qui ne s'en sont pas sorties. Voilà. Et donc, j'ai je travaille sur ce livre qui est un gros travail de recherche parce que je veux que ce soit vraiment très documenté sur vraiment des périodes d'histoire, puisque je fais partir une héroïne donc de Cannes qui va remonter avec toute la partie la Dordogne qui remonte, qui passe vers Bordeaux, sous Bordeaux, qui va passer la ligne de démarcation, qui remonte après, qui arrive en Bretagne. Et puis donc, tous les événements qui se sont passés dans la Seconde Guerre mondiale, ça va jusqu'à la libération de Paris, donc avec vraiment des histoires vraies. Et après, le Covid. Voilà, qui sont ces femmes. Et donc, il y en a qui sont des héroïnes, et d'autres qui étaient une vie normale, qui et après ont eu une vie tout à fait... Mais ce sont, voilà... Ces femmes qu'on a vues peut-être dans des EHPAD ou dans leur propre maison, elles ont toutes une histoire. Et donc, on n'a pas pris en considération l'histoire de vie de ces personnes âgées. Donc, c'est pour moi une façon... Je suis loin d'être prête. Je voudrais bien essayer d'arriver à le sortir pour 2025, puisque ça sera le grand anniversaire de la fin de la guerre. J'aimerais bien qu'il puisse être fini à ce moment-là. Voilà. Enfin, je suis encore en plein travail. Il est bientôt fini, mais pas tout à fait. Voilà pour les projets actuels. Puis, il y en a beaucoup d'autres en plus. Mais enfin,
il y en a beaucoup d'autres.
Et puis les conférences, voilà. Puis
et quand, oui, vous êtes occupée.
Quand Jalma m'appelle,
À 200%.
Je me déplace.
Vous venez de Nice, c'est ça?
Oui, je suis arrivée. Je venais d'Italie, là, aujourd'hui, hier. Voilà, j'étais en Italie, mais je suis entre l'Italie et Paris. Voilà, donc je suis entre les deux parties, les deux pays. Et là, je suis venue donc par Nice et puis Nice jusqu'ici.
Amanda Castello, merci. Est-ce que vous avez envie de rajouter quelque chose dont j'ai oublié de vous poser la question?
Non, je crois qu'il y aurait des milliers de sujets sur lesquels on pourrait, bien sûr, qu'on pourrait approfondir. Je crois qu'il faut surtout, d'une part, inviter tout le monde à venir ce soir voir ce magnifique film et puis prendre contact avec Jalmal, parce que souvent les gens n'osent pas venir et puis dire « mais non, mais moi c'est pas si grave ». En fin de compte, toute souffrance, c'est grave. Et ce qu'il faut essayer de comprendre, c'est que l'aide, elle existe. Quelqu'un a dit « frappez, on vous ouvrira ». Demandez, et puis vous obtiendrez. Ça ne veut pas dire la baguette magique, ça ne veut pas dire le miracle, mais ça veut dire quand même une aide. Et il y a quand même beaucoup de personnes qui sont tout à fait disponibles. Et puis, c'est une croissance mutuelle. Parce que quand on aide quelqu'un, c'est ce que disent tous les bénévoles, on reçoit beaucoup plus que ce que l'on donne. Donc, moi, je ne peux que inviter tout le monde. Je ne peux que vous remercier, surtout. Remercier Fréquence Mistral pour sa disponibilité et pour son accueil. Et puis, s'il y a des questions ou si vos auditeurs, ensuite, après avoir lu le livre, il y a un mail à la fin du livre. D'accord. Il y a mon mail et donc les gens peuvent m'écrire et je réponds toujours.
Merci beaucoup de votre venue dans notre studio et puis dans notre jolie petite ville qui est Digne-les-Bains. Et puis donc on vous revoit ce soir pour la projection du film C'est la vie, qui donc à partir de 17h45 au Ciné-Étoile. Il y aura donc dans le hall aussi, j'imagine, un stand avec votre livre. Voilà. Donc, bonne fin de journée, à ce soir certainement. Et je vous propose, pour nous quitter, d'écouter justement une chanson qui s'appelle « Passage », puisque nous sommes de passage, oui. Et qu'il faut aussi l'accepter. C'est une chanson d'une artiste locale, Martine Scorsese. On écoute donc de l'album « Passage ». Au revoir et merci.
Merci.
Laissez-moi passer. Passage, je suis le passage. Je ne fais que passer. Laissez passer, laissez-moi passer. On dit que le temps passe, mais c'est nous qui passons. On dit que le temps passe, mais c'est nous qui.
La vie passe vite, 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 vite. La vie passe vite, la vie passe vite. La vie vite passe, passe. Passage.
passage, passera, passera pas. Où est le passage pour ceux de passage sans armes ni bagages?
Passage, passera, passera pas. Où est le passage pour ceux de passage sans armes ni bagages?
On dit que l'amour passe, mais c'est nous qui passons. On dit que l'amour passe, mais c'est nous qui.
La vie passe vite, 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 vite. La vie passe vite, la vie passe vite. La vie vite passe, passe.
Passage, vite, c'est passé. Laissons les passer, c'est sans identité, mais pas sans passer.
Passage, vite, c'est passé. Laissons les passer, c'est sans identité, mais pas sans passer.
On dit que le temps passe, mais c'est nous qui passons. On dit que le temps passe, mais c'est nous qui.
Passage, nous sommes de passage. Laissons passer, laissons-nous passer de la vie passager.
Passage, nous sommes de passage. Laissons passer, laissons-nous passer de la vie passager.
De la vie passager.
Nous sommes de passage.
De la vie passager.
Laissons passer, laissons-nous passer de la vie passager.
On dit que l'amour passe, mais c'est nous qui passons. On dit que l'amour passe, mais c'est nous.
Aujourd'hui, comme hier, assis seul sur la digue, à regarder la mer, cette femme m'intrigue. Dans son abaya rouge, telle une Stabat Mater, ne tremble ni ne bouge. Elle regarde la mer. Elle est juste présence, elle est juste silence, elle est juste immobile, tendue et intranquille. Seul un geste de la main la dessine vivante. Quand le vent vole malin, son voile rouge amarrante. Aujourd'hui, comme hier, assis seul sur la digue, à regarder la mer, cette femme m'intrigue. Dans son abaya rouge, telle une Stabat Mater, ne tremble ni ne bouge. Elle regarde la mer. S'il y a Rabat, Conakry, Misrata, Bamako, Tripoli, Kinshasa, Benghazi, et en cette fin d'hiver, un grand vol d'hirondelles survole les frontières des humains sur la terre. Aujourd'hui, comme hier, assis seul sur la digue, à regarder la mer, cette femme m'intrigue. Dans son abaya rouge, telle une Stabat Mater, ne tremble ni ne bouge. Elle regarde la mer. Attend-elle un retour, espère-t-elle un départ? Quoi ou qui chaque jour la fait veiller si tard? À regarder la mer, comme on regarde un phare, comme on guette une barque, et que l'on désespère. Aujourd'hui, comme hier, elle regarde la mer.